La route de Clermont.
20 jours plus tard, la petite cité de Clermont-de-l'Oise connaissait une animation fort inhabituelle. Des portes jusqu'au château royal, de l'église à la prévôté, il y avait grand mouvement de peuple. On se bousculait dans les rues et dans les tavernes avec une rumeur joyeuse et les tentures de procession flottaient aux fenêtres. Car les crieurs publics avaient annoncé tôt le matin que Monseigneur de Poitiers, second fils du roi et son oncle, Monseigneur de Valois, venaient accueillir au nom du souverain leur sœur et nièce, la reine Isabelle d'Angleterre. Celle-ci débarquait 3 jours plus tôt sur le sol de France, faisait route à travers la Picardie. Elle avait quitté Amiens le matin. Si tout allait bien, elle parviendrait à Clermont en fin d'après-midi. Elle y dormirait et le lendemain, son escorte d'Angleterre jointe à celle de France, elle se rendrait au château de Maubuisson, près de Pontoise, où son père, Philippe le Bel, l'attendait. Peu avant vêpres, prévenu de l'approche des princes français, le prévôt, le capitaine de ville et les échevins passèrent la porte de Paris pour présenter les clés. Philippe de Poitiers et Charles de Valois, qui chevauchaient en tête, reçurent leur bienvenue et pénétrèrent dans Clermont. Derrière eux s'avançaient plus de 100 gentilshommes, écuyers, valets et gendarmes, dont les chevaux soulevaient grande poussière. Une tête dominait toutes les autres, celle de Robert d'Artois. À cavalier géant, monture géante. Ce colossal seigneur, assis sur un énorme percheron rouan, et portant bottes rouges, manteau rouge, cotte d'armes de soie rouge, attirait forcément les regards. Alors que chez main cavalier la fatigue était visible, lui restait droit en selle comme s'il venait juste d'y monter. En vérité, depuis le départ de Pontoise, Robert d'Artois avait pour se soutenir et se rafraîchir le sentiment aigu de la vengeance. Il était seul à savoir le but véritable du voyage de la jeune reine d'Angleterre, seul à en deviner les développements, et il en tirait d'avance une jouissance âpre et secrète. Pendant tout le trajet, il n'avait cessé de surveiller Gautier et Philippe d'Aunay, qui faisaient partie du cortège, le premier comme écuyer de la maison de Poitiers et le cadet comme écuyer de celle de Valois. Les deux jeunes gens étaient ravis du déplacement et de tout ce train royal. Pour mieux briller, ils avaient, dans leur innocence et leur vanité, accroché sur leurs vêtements d'apparat les belles aumônières données par leur maîtresse. En voyant ces objets étincelés à leur ceinture, Robert d'Artois sentit passer dans sa poitrine les ondes d'une énorme joie cruelle, et il eut peine à s'empêcher de rire. « Allez, mes gentillets, mes oisons, mes coquebins !» se disait-il. « Souriez donc en pensant aux beaux seins de vos dames, pensez-y bien, car vous n'y toucherez plus guère, et respirez le jour qu'il fait, car je crois fort que vous n'en aurez plus beaucoup d'autres. » En même temps, gros tigre jouant, griffe rentrée avec sa proie, il adressait aux frères d'Aunay des saluts cordiaux ou leur lançait quelques joyeusetés sonores. Depuis qu'il les avait sauvés du faux guet-apens de la tour de Nesle, les deux garçons se considéraient comme ses obligés et se sentaient tenus de lui témoigner de l'amitié. Quand le cortège s'arrêta, ils invitèrent d'Artois à vider en leur compagnie un broc de vin gris sur le seuil d'une auberge. « À vos amours !» leur dit-il en levant son gobelet. « Et gardez bien le goût de ce petit vin !» Dans la grande rue coulait une foule dense, qui ralentissait l'avance des chevaux. La brise agitait légèrement les draperies multicolores qui ornaient les fenêtres. Un chevaucheur arriva au galop, annonçant que le train de la reine d'Angleterre était en vue. Aussitôt se refit un grand branle-bas. « Pressez nos gens !» cria Philippe de Poitiers à Gautier d'Aunay. Puis, se tournant vers Charles de Valois, « Nous sommes à l'heure qu'il faut, mon oncle !» Charles de Valois, tout de bleu vêtu et un peu congestionné par la fatigue, se contenta d'incliner la tête. Il se serait bien passé de cette chevauchée. Son humeur était morose. Le cortège avança sur la route d'Amiens. Robert d'Artois s'approcha des princes et se mit au botte à botte avec Valois. Bien que dépossédé de l'héritage d'Artois, Robert n'en était pas moins cousin du roi, et sa place était sur le rang des premières couronnes de France. Regardant la main gantée de Philippe de Poitiers fermée sur les rênes de son cheval noir, Robert pensait « C'est pour toi, mon maigre cousin, c'est pour te donner la comté franche que l'on m'a ôté mon Artois. » Mais avant que demain soit achevé, tu vas recevoir une blessure dont ni l'honneur ni la fortune d'un homme ne se remettent aisément. » Philippe, comte de Poitiers et Marie de Jeanne de Bourgogne, étaient âgés de 21 ans. Par le physique autant que par la manière d'être, il différait du reste de la famille royale. Il n'avait pas la beauté majestueuse et froide de son père, ni le turbulent embonpoint de son oncle. Il tenait de sa mère, la Navarraise. Long de visage, de corps et de membres, très grand, ses gestes étaient toujours mesurés, sa voix précise, un peu sèche. Tout en lui, le regard, la simplicité du vêtement, la courtoisie contrôlée de ses propos, disaient une nature réfléchie, décidée, où la tête l'emportait sur les impulsions du cœur. Il était déjà dans le royaume une force avec laquelle il fallait compter.